Chapitre 7. Vers les tombeaux des empereurs. Première partie. Vendredi 26 avril. C'est enfin aujourd'hui mon départ pour ce bois sacré qui renferme les sépultures impériales. À 7h du matin, je quitte le palais du Nord, emmenant mes serviteurs de l'automne dernier, Osman et Renaud, plus 4 chasseurs d'Afrique et un interprète chinois. Nous partons à cheval sur nos bêtes choisies pour le voyage et qui prendront le chemin de fer avec nous. D'abord 2 ou 3 kilomètres à travers Pékin, dans la belle lumière matinale, par les grandes voies magnifiquement désolées, celles des cortèges et des empereurs, par les triples portes rouges, entre les lions de marbre et les obélisques de marbre, jaunis comme de vieux ivoires. Maintenant la gare, et c'est en pleine ville, au pied de la muraille de la deuxième enceinte, puisque les barbares d'Occident ont osé commettre ce sacrilège de crever les remparts pour faire passer leurs machines subversives. Embarquement de mes hommes et de mes chevaux. Puis le train file à travers les dévastations de la ville chinoise et longe pendant 3 ou 4 kilomètres la colossale muraille grise de la ville tartare, qui ne finit plus de se dérouler toujours pareil, avec ses mêmes bastions, ses mêmes créneaux, sans une porte, sans rien qui repose de sa monotonie et de son énormité. Une brèche dans l'enceinte extérieure nous jette enfin au milieu de la triste campagne. Et c'est pendant 3h30 un voyage à travers la poussière des plaines, rencontrant des gares détruites, des décombres, des ruines. D'après les grands projets des nations alliées, cette ligne qui va actuellement jusqu'à Pao Ting Fu devra être prolongée de quelques centaines de lieues, de façon à réunir Pékin et Hankou, les deux villes monstres. Elle deviendrait ainsi une des grandes artères de la Chine nouvelle, semant à flot sur son passage les bienfaits de la civilisation d'Occident. À midi, nous mettons pied à terre devant Chucheou, une grande ville murée, dont on aperçoit, comme dans un nuage de cendres, les hauts remparts crénelés et les 2 tours à 12 étages. On se reconnaît à peine à 20 pas, comme par les temps très brumeux du nord, tant il y a de poussière en suspens partout, sous un soleil terni et jaunâtre, dont la réverbération est cependant accablante. Le commandant et les officiers du poste français qui occupent Chucheou depuis l'automne ont eu la bonté de venir au-devant de moi et m'emmènent déjeuner à leur table, dans la quasi-fraîcheur des grandes pagodes un peu obscures où ils sont installés avec leurs hommes. « En effet, me disent-ils, la route des tombeaux, qui semblait dernièrement si sûre, l'est moins depuis quelques jours. Il y a par là, en maraude, une bande de 200 boxers qui est venue hier attaquer un des grands villages par où je passerai, et on s'est battu toute la matinée, jusqu'à l'apparition du détachement français, envoyé au secours des villageois, qui a fait envoler les boxers comme une compagnie de moineaux. « 200 boxers, reprend le commandant du poste en calculant dans sa tête. « Voyons, 200 boxers, il vous faut au moins 10 hommes. Vous avez déjà 6 cavaliers. Je vais, si vous le voulez, vous en ajouter 4. » Je crois devoir faire alors quelques cérémonies, lui répondre que c'est trop, qu'il me comble. Et sous le nez des Bouddhas qui nous regardent déjeuner, voici que nous nous mettons à rire l'un et l'autre, frappés tout à coup par l'air d'extravagante fanfaronnade de ce que nous disons. En vérité, c'est de la force de « paresser Navarrois, Maures et Castillans ». Et cependant, 10 hommes contre 200 boxers, c'est bien tout ce qu'il faut. Ils ne sont tenaces et terribles que derrière des murs, ces gens-là, mais en rase campagne. Il est fort probable, du reste, que je n'en verrai pas la queue d'un. J'accepte cependant le renfort, 4 braves soldats qui seront ravis de venir là-bas à ma suite. J'accepte d'autant plus que mon passage va prendre ainsi aux yeux des Chinois les proportions d'une reconnaissance militaire, et que cela fera bon effet dans ce moment, paraît-il. À 2h, nous remontons à cheval pour aller coucher à 25 kilomètres plus loin, dans une vieille ville murée qui s'appelle Lai Shuxian. Les villes chinoises ont le privilège de ces noms-là. On sait qu'il en est une appelée Sha Mam Yaou et une autre, une très grande, ancienne capitale, Chien Chien. Et nous nous enfonçons, tout de suite disparus, dans le nuage poudreux que le vent chasse sur la plaine, l'immense et l'étouffante plaine. Il n'y a pas d'illusion à se faire, c'est le vent jaune qui s'est levé. Un vent qui souffle en général par période de 3 jours, ajoutant à la poussière de la Chine toute celle du désert mongol. Point de route, mais des ornières profondes, des sentiers en contrebas de plusieurs pieds qui n'ont pu se creuser ainsi que par la suite des siècles. Une campagne affreuse qui, depuis le commencement des temps, subit des chaleurs torrides et des froids presque hyperboréens. Dans ce sol desséché, émietté, comment donc peuvent croître les blés nouveaux qui font çà et là des carrés d'un vert bien frais au milieu des grisailles infinies? Il y a aussi de loin en loin quelques maigres bouquets d'ormeaux et de saules, un peu différents des nôtres, mais reconnaissables cependant, garnis à peine de leurs premières petites feuilles. Monotonie et tristesse, pauvre paysage de l'extrême nord, dirait-on, mais éclairé par un soleil d'Afrique, un soleil qui se serait trompé de latitude. À un détour du chemin creux, une troupe de laboureurs qui nous voit tout à coup surgir s'effare et jette leurs bêches pour se sauver. Mais l'un d'eux les arrête en criant « Foko Pink !» « Français soldats !»« Ce sont des Français, n'ayez pas peur !» Alors ils se courbent à nouveau sur la terre brûlante, continuent paisiblement leur travail en nous regardant passer du coin de l'œil. Et leur confiance en dit déjà très long sur l'espèce un peu exceptionnelle de barbares que nos braves soldats ont su être au cours de l'invasion européenne. Ces quelques bouquets de saules, clairsemés dans les plaines, abritent presque tous, sous leur ombre très légère, des villages de cultivateurs, maisonnettes en terre et en briques grises, vieilles petites pagodes cornues qui s'effritent au soleil. Avertis par des veilleurs, les hommes et les enfants, quand nous passons, sortent tous pour nous regarder en silence, avec des curiosités naïves. Torse nus, très jaunes, très maigres et très musclés. Pantalons en toujours pareille cotonnade bleu foncé. Par politesse, chacun déroule et laisse pendre sur son dos sa longue natte. La garder relevée en couronne serait une inconvenance à mon égard. Point de femme. Elle reste cachée. Avec la terreur en moins, ces gens doivent éprouver les mêmes impressions que jadis les paysans de la Gaule lorsque passait avec son escorte quelque chef de l'armée d'Attila. En nous, tout les étonne, costumes, armes et visages. Même mon cheval, qui est un étalon arabe, doit leur sembler une grande bête élégante et rare, à côté de leurs tout petits chevaux à grosse tête ébouriffée. Et les saules frêles, qui tamisent la lumière au-dessus de ces maisons, de ces minuscules pagodes, de ces existences primitives, sèment sur nous le duvet blanc de leur floraison, comme de petites plumes, de petites touffes d'ouates, qui tombent en pluie et se mêlent à l'incessante poussière. Dans la plaine qui recommence ensuite, unie et semblable, je me tiens à 200 ou 300 mètres en avant de ma petite troupe armée pour éviter le surcroît de poussière que soulève le trot de ses chevaux. Un nuage gris derrière moi, quand je me retourne, m'indique qu'elle me suit toujours. Et le vent jaune continue de souffler. Nous voici saupoudrés à tel point que nos cheveux, nos moustaches, nos uniformes sont devenus couleur de cendre. Vers 5 heures apparaît en avant de nous cette vieille ville murée où nous devons passer la nuit. De loin, elle est presque imposante au milieu de la plaine, avec ses hauts remparts crénelés de couleurs si sombres. De près, sans doute, elle ne sera que ruine, décrépitude, comme la Chine tout entière. Un cavalier, traînant avec lui son inévitable petit nuage, accourt à ma rencontre. C'est l'officier commandant les 50 hommes d'infanterie de marine qui, depuis le mois d'octobre, occupent Lai Shouxian. Il m'apprend que le général a eu la très aimable pensée de me faire annoncer comme l'un des grands mandarins de lettres d'Occident. Alors le mandarin de la ville va sortir au-devant de moi avec un cortège et il a convoqué les villages voisins pour une fête qu'il me prépare. En effet, le voici ce cortège qui débouche là-bas des vieilles portes croulantes avec des emblèmes rouges, des musiques et s'avance dans les champs désolés. Maintenant il s'arrête pour m'attendre, rangé sur les deux files de chaque côté du chemin. Et suivant le cérémonial millénaire, un personnage s'en détache, un serviteur du mandarin, chargé de me présenter, à 50 pas en avant, un large papier rouge qui est la carte de visite de son maître. Il attend lui-même, le mandarin craintif, descendu par déférence de sa chaise à porteur, et debout avec les gens de sa maison. Ainsi qu'on me l'a recommandé, je lui tends la main sans mettre pied à terre. Après quoi, dans les tourbillons de la poussière grise, nous nous acheminons ensemble vers les grands murs, suivis de mes cavaliers et précédés du cortège d'honneur avec ses musiques et ses emblèmes. En tête, deux grands parasols rouges entourés de soie retombantes comme des dais de procession. Ensuite, un fantastique papillon noir, large comme un hibou éployé, qu'un enfant tient au bout d'une hampe. Ensuite encore, sur deux rangs, les bannières, puis les cartouches en bois laqué rouge, inscrits de lettres d'or. Et dès que nous sommes en marche, les gongs commencent de sonner lugubrement, à coups espacés comme pour un glas, tandis que les héros, par de longs cris, annoncent mon arrivée aux habitants de la ville. Voici devant nous la porte qui semble une entrée de caverne. De chaque côté, 5 ou 6 petites cages de bois sont accrochées, chacune emprisonnant une espèce de bête noire qui ne bouge pas au milieu d'un essaim de mouches dont on voit la queue passer à travers les barreaux, pendre au dehors comme une chose morte. Qu'est-ce que ça peut être pour se tenir ainsi roulé en boule et avoir la queue si longue? Des singes? Oh, horreur! Ce sont des têtes coupées. Chacune de ces gentilles cages contient une tête humaine qui commence à noircir au soleil et dont on a déroulé à dessein les grands cheveux nattés. Nous nous engouffrons dans la porte profonde, accueillis par le rictus des inévitables vieux monstres de granit, qui à droite et à gauche dressent leurs grosses têtes aux yeux louches. Pour me voir passer, des gens immobiles sont plaqués contre les parois de ce tunnel, à tout touche, grimpés les uns sur les autres, des nudités jaunes, des haillons de coton bleu, de vilaines figures. La poussière emplit et obscurcit ce passage voûté où nous nous pressons, hommes et chevaux, dans l'enveloppement d'un même nuage. Et nous voici entrés dans de la vieille Chine provinciale, tout à fait arriérée et ignorée.